Tu es seul sur sa croix. La croix que lui porte n'est pas celle de sa propre culpabilité, c'est la nôtre. Amen. Et à la croix, il est seul. Et il l'a fait avec un regard pas seulement sur l'immédiat, mais Dieu, dans sa miséricorde, dans sa bonté, a voulu qu'il puisse voir votre visage ce matin. Moi, je me dis à chaque fois, tu as fait preuve d'un amour immense parce que tu n'as pas regardé à ce qu'on était, mais ce que nous allions être en toi. Merci, Seigneur. Et nous devons être reconnaissants à notre Dieu pour sa bonté, sa miséricorde, et jamais prendre la Sainte-Seine par habitude, mais conscient de la valeur, de la portée du sacrifice de Christ pour nous. Amen. Amen. J'aimerais ce matin partager un sujet avec vous. Et l'idée est venue de ce texte de l'Ecclésiaste au chapitre 10, verset 10. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 10. Qui dit, si le fer est émoussé et qu'on n'ait pas aiguisé le tranchant, on devra redoubler de vigueur, mais la sagesse a l'avantage du succès. Amen. Si le fer est émoussé. Depuis quelque temps, je regarde une émission qui, voilà, c'est juste une question aussi de, des fois de libérer la tête. Mais ça permet d'apprendre certains métiers qui sont devenus un peu oubliés. Et cette émission est l'émission avec des forgerons. Alors je sais que des fois mes enfants ils disent « Papa, change de truc, on en a marre ». Mais moi ça m'intéresse parce que je me dis, il y a des choses qu'on a perdues. Et aujourd'hui on a l'habitude tellement d'aller acheter. Et on a oublié comment ces choses étaient préparé, faite. Et en regardant cette émission et en lisant ce texte, en préparant le message, je me suis dit, Seigneur, c'est vrai, on a oublié qu'il y a tout un enseignement. Et que se passe-t-il quand le tranchant a perdu cette véritable capacité de couper dans le bois? Alors, en réfléchissant à tout ça, j'ai réalisé la nécessité pour nous peut-être de replonger nos regards sur ce métier. Parce que, à quelque part, c'est ce que Dieu fait aussi avec nous. Nous sommes, au départ, quand nous venons au Seigneur, ce métal qui a besoin d'être travaillé. Si vous prenez un bout de métal, avec ça, vous n'allez pas forcément avoir quelque chose de tranchant qui va être un outil entre vos mains. Il va falloir le travailler. Et on voit le travail du forgeron parce qu'il chauffe ce métal au point de pouvoir finalement le travailler. Alors, chose étonnante, il ne le travaille pas tout en douceur. Le métal, une fois qu'il est arrivé à température, il est posé sur l'enclume. Et là, c'est avec des coups de marteau. Non ? Et je pense que plus je vous explique les choses, plus vous voyez où je veux en arriver. Et c'est là qu'en effet, le métal prend et commence à prendre la forme de l'objet qui va devoir devenir. Mais une fois qu'il a pris la forme, le processus n'est pas terminé. Il faut encore une fois le chauffer pour qu'une fois atteint, je dirais, la bonne forme que le forgeron veut lui donner, il va être plongé dans de l'huile pour que finalement il durcisse, pour qu'il puisse tenir dans le temps. Et ce n'est pas fini. Après, il est question encore de dégrossir, d'enlever tout ce qui ne va pas et finalement de commencer à l'aiguiser. Et une fois aiguisé, si on gardait juste le métal comme ça, ben on ne pourrait pas s'en servir. Il faut finalement appliquer un manche pour que ça devienne un outil. Dans notre vie spirituelle, on est de même. Quand nous venons au Seigneur, nous avons besoin que Dieu nous donne la forme qu'il veut pour nous. On doit considérer que certes nous avons fait déjà un bout de chemin dans notre vie, mais nous avons besoin finalement d'acquérir la forme que Dieu voit en nous et que Dieu a établie. Et parfois ça passe par ce moment où on est mis à une température haute. Mais on n'aime pas trop les épreuves. On n'aime pas trop les difficultés. On n'aime pas les problèmes. Et là encore, on a le sentiment qu'on est martelé. Ça vous parle ? On dit, mais Seigneur, quand est-ce que ça va s'arrêter, les coups de marteau ? Mais le jour où tu auras finalement atteint la forme que Dieu veut que tu aies. Et quand les coups de marteau sont terminés, on se dit, ok, wow, c'est bien. Et à nouveau, dans la forge. Ah ben Seigneur, pas de repos pour les braves. Hein ? Et là, la température, elle monte, mais pour finalement connaître l'ancien. Être baigné dans une huile qui va en réalité transformer la nature du métal. Est-ce qu'on veut que Dieu nous donne son onction ? Qui souhaite l'onction de Dieu ? Mais on ne peut pas avoir l'onction si on n'accepte pas les phases d'avant. Et une fois qu'on a reçu l'onction, très bien, on pourrait se dire, mais maintenant j'ai l'onction. Ça me suffit. Ça va très bien comme ça. Mais en réalité, il nous manque quelque chose. Qu'est-ce qui nous manque ? D'être aiguisé, d'être tranchant. Parce que si le fer est émoussé, si le fer n'est pas aiguisé, quel devra être l'effort pour finalement pouvoir fondre du bois ? Vous imaginez ? Impossible. Et la question pour nous, c'est que notre vie, frères et sœurs, soit un outil entre les mains de Dieu pour pouvoir finalement réaliser ce que Dieu souhaite de nous, n'est-ce pas ? Et on a besoin aussi d'accepter ce travail et cette présence du bois dans notre vie. Quel est le bois qui doit être présent dans notre vie ? La croix. Tant que la croix, nous ne sommes pas véritablement là en train de porter notre croix, et nous laisser aussi porter par la croix, par le message, par la puissance, par l'autorité, ben on n'est pas un instrument complet, n'est-ce pas ? Et quand l'Ecclésiaste, un homme très sage, expliquera tout ça, le but c'est de dire à chacun d'entre nous, encore aujourd'hui, mon frère, ma sœur, prends soin à aiguiser le tranchant de ta vie. Il faut que tu puisses être un instrument entre les mains de Dieu. On va faire une lecture en 1 Samuel chapitre 13 à partir du verset 19 au verset 22. 1 Samuel chapitre 13 verset 19 à 22. Il dit « On ne trouvait pas de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit que les Hébreux ne fabriquent ni épée ni lance. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, sa pioche, sa hache et sa bêche. Quand les tranchants des bêches, des pioches, des tridents et des haches étaient émoussés et pour redresser les aiguillons, il arrivait qu'un jour de combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait que pour Saül et son fils Jonathan. » Que se passe-t-il si le peuple de Dieu oublie, néglige ou ne fait plus, ne permet plus à sa vie d'être aussi ce travail et qui ne laisse pas à quelque part et qui ne se donne pas les moyens de continuer à entretenir cette véritable relation avec Dieu? C'est qu'au moment du combat, on n'est pas prêt d'aller au combat. Vous savez, si on va au combat avec la pioche, celui qui a l'épée aura le dessus, n'est-ce pas ? Alors il est question pour nous, frères et sœurs, de ne pas faire l'erreur qui a fait le peuple d'Israël, parce que le problème, c'est qu'il s'est laissé amener par la stratégie de l'ennemi. Et la stratégie de l'ennemi, c'est de nous proposer la facilité et l'oisiveté. Pourquoi tu ferais toi-même ce que tu peux laisser faire aux autres ? Vous connaissez cette formule, hein ? Mais tu as un problème à tâche, tu vas chez les Philistins. Les Philistins représentent quoi dans la Bible ? Le monde, non ? Tu as besoin de quelque chose ? Va voir dans le monde. Mais est-ce que c'est là que les enfants de Dieu doivent aller voir ? C'est là qu'on doit chercher le conseil ? C'est là qui, c'est le monde qui peut aiguiser notre vie chrétienne ? Ou c'est nous qui avons besoin, quelque part, de dire, Seigneur, fais de nous des forgerons ? Alors certes, il fait chaud. C'est un travail pas évident. À force, on devient musclé. Hein ? Faut taper sur le métal. Le bruit peut être dérangeant. Il y a les odeurs, il y a tout ce qu'on veut, mais combien il est heureux le forgeron quand il a terminé son travail et qu'il voit le produit fini, n'est-ce pas ? Il est fier de son travail. Il est fier parce qu'il sait qu'il a mis tout ce qu'il fallait pour que cette œuvre soit complète. Que se passe-t-il dans la vie d'un chrétien qui a perdu, excusez-moi, ce tranchant dans sa vie ? Que peut-il se produire ? C'est qu'au moment où il se trouve dans une situation bien particulière, il se rend compte qu'il doit doubler, voire même tripler d'efforts pour atteindre le même objectif qui aurait pu être obtenu d'un seul coup. Vous connaissez l'histoire de cet homme qui est appelé à travailler dans une entreprise et il est jeune, il est fort. Et il se dit, moi, quand je vois les autres bûcherons, ils sont plus âgés, donc certainement je vais faire beaucoup plus qu'eux. Hein ? Il regarde ses muscles, il les lustre, et il est tout fier. Et il commence à couper du bois. Et au départ, il va vite. Et quand il voit ses collègues en train de préparer leur hache, de la travailler, il rigole, lui. Il perd du temps. Et il y va, et il y va, et il y va. Et il se dit, moi, je ferai plus qu'eux. Je vais leur montrer comment il faut travailler. Vous savez, un peu l'idée de dire, moi, je travaille mieux que les autres. Et de temps en temps, il voit à nouveau ses collègues qui sont en train de travailler et remettre leur hache en bonne condition pour être bien tranchante. Et le résultat, en réalité, va se voir en fin de journée. Parce que lui, il va être épuisé. Et la quantité de bois qu'il aura coupé, elle sera toujours moindre par rapport à ce que les autres ils ont fait. Il ne comprend pas au départ. Il se dit, mais ce n'est pas possible. Ils sont moins forts que moi. Ils sont moins musclés que moi. Ils sont plus vieux que moi. Moi, je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas fait de pause. Oui, mais tu n'as pas usé de sagesse. Et la parole de Dieu, frères et sœurs, nous amène à devoir avoir une considération par rapport à ce que Dieu attend de nous. On va faire une autre lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 17. Matthieu 17, à partir du verset 14. Il dit, « Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, il est lunatique et malade. » Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pu le guérir. » Il n'y avait pas de tranchant. Non ? Et Jésus répondit, « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand je serai avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi ici. » Et Jésus menaça le démon qui sortit du garçon. Et celui-ci fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?»« C'est à cause de votre petite foi, leur dit Jésus. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, « Transporte-toi d'ici, et là, elle se transportera. Rien ne vous sera impossible, mais cette sorte de demande ne sort que par la prière et par le jeûne. » Frères et sœurs, pour pouvoir avoir une vie spirituelle bien aiguisée, le secret, c'est de mettre en action la foi et de prendre du temps dans la prière. Et aujourd'hui, malheureusement, je trouve que les réunions de prière, c'est les réunions peut-être les plus négligées. Et pourtant, c'est là qu'on met en place le tranchant pour qu'au moment venu, je dirais, l'action que nous devons mener soit le plus rapide possible. On veut tous voir des miracles. Qui veut voir des miracles ? Qui veut voir des délivrances ? Oui, on est tous d'accord. Mais vous savez, c'est l'Église qui doit aussi travailler pour que le tranchant soit bien aiguisé. Ce n'est pas l'affaire d'une personne ou de deux. C'est, à quelque part, la responsabilité de chacun d'entre nous. Les disciples, ils ont été tellement choqués de ne pas y arriver. Il y a de quoi, non ? On aime avoir du succès dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vit. On aime pouvoir atteindre certains buts et on se dit, Seigneur, voilà, je vais avec des références bibliques. Rien pourra résister à votre marche. Alléluia. Hein ? Tout lieu que ton pied foulera, je te le donne. Alléluia. Mais on oublie tout le reste. On prend un petit bout, celui qui nous arrange le plus, et après, on met de côté tout le reste, où ça implique ce temps. Ce matin, je lisais un texte tout simple et disait « Jésus passa toute la nuit à prier ». Je crois que Jésus, dans ses heures de nuit, était en train d'aiguiser, aiguiser sa foi. Et si Jésus en avait besoin, alors nous, n'avons-nous pas besoin ? N'avons-nous pas besoin, frères et sœurs, aussi de dire « Seigneur, j'ai besoin que tu viennes encore aiguiser ma vie ». Mais on pourrait se dire « Mais une fois que ma vie est aiguisée, que ma foi, mais il faut aller au combat ». Alors je voudrais vous dire « N'ayez pas peur de combattre ». En tous les cas, vous savez, le combat viendra quand même. Il n'est pas question d'aller le chercher, le combat vient quand même. Ésaïe 54, versets 16 et 17. Et ça, c'est une promesse qui est faite à ceux qui acceptent que le Seigneur puisse travailler, aiguiser leur foi. « Voici, j'ai créé le forgeron qui souffle sur un feu de charbon et qui fabrique un instrument de guerre de sa façon. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour le briser. Tout instrument de guerre fabriqué contre toi sera sans effet. » Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la convaincras de méchanceté. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Telle est la justice qui leur vient de moi. Amen. Alors nous, on aime bien la partie finale, l'héritage. Mais pour avoir droit à l'héritage, on doit accepter que le forgeron puisse nous travailler et fabriquer avec nous un instrument comme lui, il le souhaite. J'ai besoin de dire au Seigneur, prends le métal que je suis, informe Seigneur et impur, et transforme-le dans quelque chose qui te glorifie. Amen. Qui a envie de cela? Mais n'oubliez pas le processus. N'oubliez pas que ça passe par ces étapes. Et chacun d'entre nous, on est obligé de passer par ces étapes parce que le fait finalement de faire chauffer le métal fait aussi enlever tout ce qui n'est pas bon dans notre vie. Y a-t-il des choses qui ne sont pas bonnes dans notre vie ? Moi, je parle pour moi. Oui, certainement. Et j'ai besoin que le Seigneur puisse les enlever de ma vie parce qu'elles ne me sont pas utiles. Ils me rendent encore plus inutile que je le suis, n'est-ce pas ? Mais à fur et à mesure que le Seigneur enlève ce qui ne va pas dans ma vie, je suis allégé de ce qui n'est pas bon. Et Dieu me donne la forme qu'il veut. Qui veut savoir quelle est la forme qu'il doit avoir ? Ah ! Souvent on dit, Seigneur, je ne sais pas ce que tu veux que je fasse. Mais la bonne question, Seigneur, c'est, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de moi ? La question, ce n'est pas à nous de dire à Dieu, tu sais, moi j'aimerais plus ceci ou plus cela. Non, c'est de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de moi ? Et quand on dit au Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de moi ? On doit aussi dire, Seigneur, fais ce que tu veux de moi. Mais pas me plaindre après parce que ça chauffe. Ah ben Seigneur, ça chauffe trop. Je préfère quand c'est un peu plus climatisé. Hein ? Seigneur, moins de problèmes dans ma vie. Oui, mais c'est avec les problèmes qu'on grandit. D'ailleurs, à l'école, qu'est-ce qu'on vous a enseigné dès le départ ? Qu'est-ce qu'on vous a donné dès le départ à l'école ? Des problèmes. Et à force d'être confronté aux problèmes, on vous amène à chercher des solutions. Eh bien, spirituellement, c'est la même chose. Mon frère, ma sœur, une vie sans problème, tu n'apprendras jamais quelle est la solution? Et comment tu peux apporter la solution à quelqu'un d'autre si toi-même tu ne l'as pas reçue? Si toi-même tu ne l'as pas testée? Alors je ne vais pas vous faire un cours de maths, j'en serai pas capable. D'autant plus que les maths d'aujourd'hui, ce n'est plus les maths du passé. Nous, on comptait beaucoup plus simple. Maintenant, c'est compliqué. Hein, des racines carrées, des racines comme tu veux. Nous, les racines, on les déracinait. Mais les questions pour nous, frères et sœurs, de venir quand même aux fondamentaux et de dire, Seigneur, ma vie ne sera pas utile tant que toi, tu n'auras pas fait de moi ce que tu veux. L'apôtre Paul. Qui aimerait être comme l'apôtre Paul? Hein? C'est le rêve, hein? Il a eu la vie simple, l'apôtre Paul. Pas d'efforts, pas de problèmes, pas de difficultés, pas de souffrance, surtout pas de souffrance. Non? Et son appel au ministère était magnifique. Il lui a dit, écoute, pour toi, ce sera toujours très simple. Tu n'auras pas de raison de te faire de soucis. Non, moi je vois que quand Dieu appelle, ne cache pas la vérité. Il va lui dire, tu vas souffrir. Ah bon? Oui, tu vas souffrir. D'accord. Jusqu'au point où Paul dira, mourir est un gain. Mais vous savez, les coups qu'il a pris dans son corps, ce n'était pas factice. Les cicatrices, elles étaient pas, c'était pas des tatouages. Non, c'était réel. Et il souffrait et sa santé, on avait été touché et atteinte. Mais Dieu avait prévu pour lui quelqu'un qui allait le soutenir. Un disciple qui était en plus médecin. Un homme qui est resté dans l'ombre, mais il a été utile autant que Paul dans le ministère. Et je crois que nous sommes tous utiles et personne ne peut se passer de personne dans le ministère. On a besoin les uns des autres. Certes, nous, on parle de Paul, mais n'oublions pas. N'oublions pas. Et regardons bien quand l'apôtre Paul cite les noms de tous ceux qui ont été avec lui dans l'œuvre. Et qui dit, mais un tel, il a souffert avec moi. Et l'autre, il était presque à donner sa vie. Il a payé de sa propre santé pour vous. Accueillez-le de cette manière, accueillez-le. Mais il n'y a personne qui est revenu du Club Med. Ah non? Ils ont tous, frères et sœurs, connu l'enclume et le marteau. Et c'est parce qu'ils ont accepté de passer par l'enclume et le marteau qu'ils ont reçu l'onction. Et c'est parce qu'ils ont reçu l'onction qu'ils ont pu finalement être travaillés, être aiguisés pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Si nous désirons devenir entre les mains de Dieu ce fer de lance, autant qu'Église, on doit aussi accepter que Dieu aiguise. On doit aussi accepter la part qui nous revient. On va terminer par ce texte qui se trouve dans le livre de Jérémie. C'est un appel. Et je crois que notre désir doit être celui de répondre à l'appel de Dieu en tout et pour tout. Jérémie chapitre 51, les versets 11 et 12, qui dit « Aiguisez les flèches ». Emplissez les carquois. L'Éternel a excité l'esprit des rois de Médie parce qu'il a un dessein de détruire Babylone, car c'est la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son temple. Élevez une bannière contre les murailles de Babylone. Renforcez la garde. Postez des sentinelles. Dressez des embuscades, car l'Éternel a un dessein et il exécute ce qu'il a prononcé contre les habitants de Babylone. Mais on pourrait se dire, mais ça, c'était dans le passé. Quels sont les projets de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Que veut-il dire encore d'élever une bannière contre la muraille de Babylone? Quel était le but si ce n'est d'élever un témoignage qui déclare ce qui est vrai, mais qui démasque ce qui n'est pas vrai? Est-ce que, autant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas été appelés des enfants de lumière? Et que se passe-t-il quand la lumière est présente? On voit tout, non? C'est quand il y a la lumière bien allumée, on se dit « Oh là là, là-bas j'ai oublié d'enlever, il y a une toile d'araignée. » Vous entendez ces choses, vous, à la maison? Ne regardez pas. Ne regardez pas, j'ai pas eu le temps d'enlever la poussière. Frères et sœurs, je crois que on a une responsabilité, plus que jamais, puisque le retour de Christ est proche. Le temps du jugement est proche. Et nous devons être ce témoignage, et nous devons, frères et sœurs, chacun d'entre nous, devenir une flèche aiguisée, devenir un instrument utile entre les mains du Seigneur. Et il est question pour nous de renforcer la garde. Pourquoi? Parce que l'ennemi s'attaque au peuple de Dieu. Il est question pour nous de poster des sentinelles. Pourquoi? Parce que nous avons la responsabilité de veiller et de prier. Et il est question pour nous, frères et sœurs, oui, d'accomplir les desseins de Dieu, parce qu'en tous les cas, vous savez, il les exécute. Avec ou sans nous? Et la question pour nous, c'est où est-ce que je veux être et comment je veux me positionner? Est-ce que je veux faire partie de ce peuple qui va se retrouver avec Dieu pour l'éternité? Cette semaine, je terminais la formation baptême et une des deux sœurs qui était en formation, elle dit « Mais je découvre plein de choses. » Et je lui dis « Tu es juste au début. Tu es juste au début. Il faut que tu ailles plus loin. Il faut que tu acceptes ce que le Seigneur te demande. Va plus loin. » Et je crois qu'encore, même moi, avec tant et tant d'années de conversion, j'ai encore beaucoup à apprendre. Et on doit accepter que le Seigneur nous enseigne. On doit accepter de temps en temps de repasser. Et là, le Seigneur, il commence à aiguiser. Vous savez, si on n'est pas aiguisé, on ne coupera pas. On déchirera. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même résultat. Il y a des choses qui doivent être coupées. Il y a des choses où nous avons besoin que Dieu nous aide à accomplir l'œuvre pour laquelle il nous a appelés. Alors, est-ce que quelqu'un ce matin aurait besoin? Est-ce que quelqu'un ce matin souhaiterait dire au Seigneur, « Seigneur, aiguise ma vie. Seigneur, fais de moi ce que tu veux, non pas ce que je veux. » Vous savez, quand le métal résiste, vous savez ce qui se passe? On le remet encore une fois dans la forge, et ça chauffe à nouveau, autant de fois qu'il le faudra, si nous voulons passer à l'étape d'après. Abandonnons-nous dans les mains du Seigneur et disons, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. On va fermer nos yeux et on va simplement dire au Seigneur encore ce matin, Seigneur, Seigneur, viens aiguiser le tranchant de ma vie, Seigneur. Non pas pour que Seigneur, je m'en serve ou que je devienne un instrument de blessure envers les uns et les autres. Pas du tout. Mais que, Seigneur, je puisse être un instrument entre tes mains pour l'œuvre que tu veux qui soit accomplie, Seigneur. Seigneur, je veux te prier pour chacun de nous, que nous puissions davantage prendre conscience de notre responsabilité. Et Seigneur, les secteurs de notre vie, les parties de notre vie où malheureusement, nous sommes là, nous nous efforçons et on ne voit pas de résultats. On est obligé de redoubler de vigueur, Seigneur. Accorde-nous sagesse, Seigneur, pour savoir nous arrêter, pour savoir, oui, Seigneur, prendre le temps de dire, Seigneur, je viens vers toi pour que tu puisses aiguiser, Seigneur, aiguiser ma foi, aiguiser, Seigneur, encore mes pensées, enlever ce qui ne va pas au Éternel, pour que finalement, Seigneur, tout se fasse à la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, d'être encore celui qui interpelle les cœurs, être celui encore qui renouvelle la vie de chacun de nous. Nous te le demandons, Jésus-Christ. Amen.